Bonjour à tous. Alors, je vais continuer donc la série. Qui n'était pas là la dernière fois? Dénoncez-vous. Bon, vous étiez à la plage, encore en vacances, ok, on comprend. Et il fait encore beau chez nous, Montpellier, désolé, on a tellement de grâce d'être dans un pays ensoleillé. Donc je vais faire un petit rappel très court, rapide sur la série, parce que Pasteur Rodrigue, pasteur principal, a expliqué la nouvelle série. Et c'est vrai que le titre est un peu mystérieux, « In and out », dedans et dehors. Je ne suis pas très bilingue, mais jusque-là, ça va. Et en fait, donc dimanche dernier, Rodrigue a prêché sur un texte très très fort d'Ésaïe 6 qui dit « Dieu est saint ». Il est saint, il est saint, il est trois fois saint. Et il faisait remarquer que la sainteté est vraiment une marque de la nature profonde de Dieu et que c'est le seul adjectif qui est répété trois fois pour Dieu. Il n'est pas dit dans la Bible « Dieu est amour, amour, amour ». Mais il est seulement dit pour saint, il est saint, saint, saint. Et dans sa présence, dans le temple, on voit dans Ésaïe 6 et aussi dans Apocalypse 4 qu'il y a des êtres célestes qui crient cela, et ils font que ça, en fait. Ils font juste que ça, ils ne disent que ça. Saint, saint, saint. Et il disait dans sa prédication une phrase assez percutante d'ailleurs, c'est que Jésus est mort à cause de la sainteté de Dieu. À cause de cette exigence de sainteté. C'est pour cela que le Christ est mort à la croix. Alors ça, en fait, c'est le « in ». C'est le « approchez-vous ». Venez près de Dieu. C'est tous les « approchez-vous » de la Bible. Il y en a beaucoup. « Approchez-vous » près de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, en fait, on s'approche du Dieu saint. On ne peut pas s'approcher juste de Dieu, mais sans la sainteté. Comme dans un magasin où on choisirait notre Dieu, on le ferait à notre convenance. Quand on s'approche de Dieu, on s'approche bien sûr d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de grâce, d'un Dieu de vérité, d'un Dieu de lumière, mais on s'approche aussi d'un Dieu saint. Et c'est comme si cette sainteté était vraiment l'élément le plus proche et le plus transcendant de sa présence, la sainteté. Et puis Ésaïe 6 se termine par un cri qui sort du trône et qui dit « Qui enverrai-je ? » Et ça, c'est le « out ». Une fois qu'on vient, eh bien, on est envoyé. Et c'est sur ce « out » que je vais parler ce matin. Alors on va essayer dans la série les va-et-vient en français, on va essayer d'alterner, donc il a fait le in, je fais le out, la semaine prochaine vous aurez le in, etc. Alors le out, c'est tous les allées de la Bible, le plus célèbre, je dirais c'est celui en Matthieu 28, où Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais il y en a plein d'autres, des allées. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Rodrigue. C'est lui qui reçoit de Dieu vraiment les séries, les idées. Et on reconnaît vraiment à l'équipe de direction qu'il a vraiment une inspiration qui est percutante. Et je ne sais pas ce qui a déclenché cette série en lui, mais je sais qu'il y a une statistique qui l'a troublé, qui l'a percuté. Et il en a parlé. Comme quoi les maths, ça sert. Une statistique qui est un peu violente pour nous. 95% des croyants, d'après un sondage assez sérieux, ne partageraient pas leur foi. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on parle de ce « out ». Il ne faut pas qu'on reste uniquement concentré sur « viens, 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 viens à la maison, viens à l'église », mais il faut qu'on parle de « aller », de cette « aller-là ». Et vous savez, c'est un grand problème dans l'église, au moins en France, on le rencontre un peu partout. C'est qu'on vient, on vient, on vient, on fait que ça en fait. On vient à l'église, on vient aux réunions, on vient devant Dieu. Et puis en fait, on fabrique des salières, on fabrique des tas de sel, comme à pas loin là, près de chez nous. Vous savez, on est ce sel, on est ce sel et cette lumière, hein, comme dit l'évangile de Matthieu, je crois, enfin, dans les évangiles. Mais le problème, c'est qu'on reste entre nous. Et on ne va pas faire notre fonction qui est de saler le monde, d'aller mettre ce sel, notre grain de sel, justement, là où il y en a besoin. Alors, une petite image pour la mission de l'Église. En fait, témoigner, être témoin, aller, c'est au cœur de la mission de l'Église. Et ça, on aurait tendance à l'oublier. Et si je donnais une image, la mission de l'Église, c'est comme une flèche. Il y a différentes parties de la flèche. Et moi, je dirais que témoigner, être au contact justement de ce monde, eh bien, c'est la pointe de la flèche. Et c'est celle qui a besoin d'être tranchante et de bien pénétrer la cible. Le out, c'est la suite absolument logique du in. Qui enverrai-je ? Et vous savez, si on fait l'inverse, si d'abord on va avec ce qu'on est, avec notre zèle, avec notre amour pour Dieu, avec toutes nos bonnes idées, et après on revient vers Dieu pour rechercher la batterie, puis on fait un peu les choses à l'envers. C'est pour ça que dans le texte, c'est d'abord Ésaïe qui vient devant le trône de Dieu, et à partir de là, il entend Dieu lui dire « Qui enverrai-je ?» Et là, il y a quelque chose qui monte en lui et qui dit « Moi, me voici, envoie-moi. » Il y a un désir ardent qui monte dans le cœur du prophète pour aller. Et quand on fait ça, je reprends mon image de la flèche, c'est comme si Dieu tirait la flèche. Il bande l'arc et il tire la flèche. Et il y a une force, une puissance qui vient de Dieu et pas de l'homme. Bon, j'espère que je n'ai pas trop perdu avec mes images. Moi, j'ai trouvé bien, donc... Qui enverrai-je ? Qui est-ce que Dieu envoie ? Alors, avant d'envoyer ses disciples, avant d'envoyer les hommes, eh bien, Dieu a envoyé deux personnes. La première, je dirais, c'est le Fils. C'est sa parole. C'est le Christ. Et la deuxième personne qu'il a envoyée, c'est le Saint-Esprit. Avant même d'envoyer ses disciples, il a envoyé son Fils, l'incarnation, et puis le Fils et le Père, tous deux ont envoyé le Saint-Esprit sur la terre, dans le cœur des disciples. Et c'était uniquement à ce moment-là que les disciples sont allés. Donc il y a un ordre à respecter et à être conscient. Et ce matin, je voudrais juste m'arrêter quelques minutes sur le Saint-Esprit, sur cet envoi du Saint-Esprit. Jésus disait, Jean 16, il est avantageux pour vous que je parte. C'est étrange quand même la part de Jésus de dire ça. Qu'est-ce qui est mieux que Jésus ? Si je ne pars pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Un peu plus loin, Jean 14, il dit « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous guidera et vous enseignera toutes choses. » Le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils. Alors un premier passage qui pour moi est un passage fondamental quand on réfléchit à être témoin, évangéliser, aller, cette allée-là. Et il se trouve dans Actes, le livre des Actes. Et je vais lire quelques extraits, c'est dans le chapitre 1. Comme il se trouvait avec eux, en fait on a un nouveau logiciel, donc des fois ça bug, mais il faut le temps que la sono s'approprie l'objet. L'outil. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc là, c'est Jésus qui parle à ses disciples qui sont tout feu, tout flamme parce qu'ils ont vu, ils ont touché Jésus ressuscité. Donc ils sont passés d'une tristesse immense à une joie énorme et se sont dit, aïe, Jésus est revenu parmi nous, tout est possible. Et là, Jésus les calme un peu, attention, attention, calmez-vous. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse du Père, ce que je vous ai annoncé. Verset suivant. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors pour moi, ce dernier verset est fondamental dans cette série. Et si vous connaissez un peu la géographie, en fait, c'est comme des cercles concentriques. Ça part de Jérusalem qui est le centre, après c'est la Judée qui est finalement le pays des Juifs, après c'est la Samarie qui commence à devenir le pays des païens, et puis après c'est le monde entier. Et il y a vraiment un déploiement de l'évangile à partir de Jérusalem. Mais il faut attendre la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. En méditant sur le Saint-Esprit, je me suis fait une réflexion toute bête. On découvre des choses qu'on a sous les yeux depuis tellement longtemps. Le Saint-Esprit, est saint. Il est saint. Et ça m'a arrêté. Saint-Esprit, surtout quand on est chrétien depuis des dizaines d'années, on connaît, on a l'impression de... Voilà. Mais en fait, il est saint. Et je voudrais m'arrêter un petit moment là-dessus. En fait, il est saint, et c'est pour cette raison qu'il est, par exemple, le dernier à être révélé. On voit dans la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, on voit aussi dans l'histoire de l'Église et de l'humanité, et puis on voit aussi dans nos expériences personnelles que Dieu se révèle progressivement. Et souvent, très souvent, dans les expériences, c'est d'abord Dieu le Père, c'est cet amour immense, et puis un jour on comprend la croix et on découvre Jésus, Dieu le Fils, et puis en dernier, on découvre Dieu le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe dans les Actes. Les gens se font baptiser pour leurs péchés, et puis un jour, ils découvrent qu'il y a aussi le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est-il en dernier ? Pourquoi il est révélé en dernier ? Moi, je crois, c'est parce qu'il est saint. Vous savez, la sainteté, c'est hautement sensible. C'est comme un explosif ultra sensible. La sainteté de Dieu, il n'y a rien de plus haut, de plus précieux que cela. J'ai cherché à définir qu'est-ce que c'est la sainteté, même ça c'est compliqué, mais moi je dirais avec mes mots, c'est sans mal, c'est absolument pur, c'est absolument un bien, un bon, pur, absolu. Le péché et le pécheur sont détruits en présence de la sainteté. Ils sont détruits. Et quand on voit, même dans les Actes, Ananias et Saphira qui jouent avec cette sainteté, ils sont détruits. L'Esprit porte en lui cette sainteté. Et en méditant, j'ai compris que c'est uniquement après l'œuvre de Jésus-Christ, uniquement après l'œuvre de la croix qui expie, qui pardonne le péché, qui couvre en fait, le mot, c'est couvrir le péché afin que Dieu ne le voit plus, que le Saint-Esprit peut venir. Il ne peut pas venir avant, sinon il nous détruirait. Sinon il y aurait juste une éradication de l'humanité, tellement le mal, tellement le péché ancré dans nos vies, même à nous, chrétiens depuis de longues dates. Et je m'aperçois dans ma propre vie que le Saint-Esprit, excusez-moi l'expression, fait partie des meubles et au bout d'un moment, je perds de vue sa sainteté. Je perds de vue à quel point j'ai un privilège d'accueillir la sainteté en moi. Et je voulais, pour illustrer cela, ressortir avant, j'étais beaucoup avec les enfants et les ados et j'aimais beaucoup faire des illustrations. Alors c'est une illustration classique, mais... C'est comme si cette sainteté, c'est une eau la meilleure. Alors, San Pellegrino, c'est pas mal quand même. C'est une eau qui est bonne. Elle est vraiment de qualité. Et nous, on est ces verres, des vases que Dieu remplit de son eau pure, excellente et très très bonne. Nous sommes cela. Mais dans nos vies, il y a ces choses comme ça. Et aux enfants, j'aime bien leur dire, et je l'ai fait en vrai, 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 tout à l'heure, là, pendant les annonces, je suis allé chercher de l'eau des toilettes. C'est de l'eau des toilettes. Dans le petit gobelet de la Sainte-Seine, en plus. Et nos petits péchés infimes, vous voyez, la couleur est la même. Ça ne se voit pas. Mais qui veut boire ça ? Qui veut boire ça ? Est-ce qu'il y a un volontaire ? Et on ne se rend pas compte à quel point nous sommes légers, à quel point nous n'y serons jamais. Vous savez, Rodrigue faisait remarquer que Ésaïe, le grand prophète, quand il est devenu, venu devant la sainteté de Dieu, Il a dit, malheur à moi, ma bouche, mes lèvres sont impures. Lui, le prophète, lui dont la parole même de Dieu sortait de sa bouche, il disait, mais ma bouche est impure, mes lèvres sont impures. Alors on pourrait se dire, mais c'est désespérant ce que tu racontes, on est vraiment des... Mais c'est pour cela que Jésus-Christ nous couvre jour après jour, seconde après seconde. Si la couverture du sang de Jésus-Christ nous quittait ne serait-ce qu'un milliardième de seconde, mais nous serions détruits par ce que nous portons en nous, par le Saint-Esprit sur notre vie. Est-ce qu'on réalise cela? Qu'on ne peut pas jouer avec la sainteté? C'est sérieux. Et je crois que dans cette saison de l'Église, qui est une saison de puissance du Saint-Esprit, il nous faut sérieusement réfléchir à cela et reconsidérer que nous devons faire tous nos efforts pour être saints. Et quand nous ne le sommes pas, parce que personne ne l'est vraiment, que nous puissions serrer Jésus-Christ, nous puissions serrer le sang de l'agneau sur nos vies et rester sous cette couverture et ne pas la quitter, mais ne pas être léger. Sainteté. Sainteté de Dieu. La sainteté de l'Esprit fait que il amène quelque chose d'unique dans le monde. Il révèle Dieu dans sa plénitude. Il y a des magnifiques versets qui sont en fait mes préférés dans la Bible. C'est dans 1 Corinthiens 2. Je ne sais pas si Nico, tu peux passer quelques-uns. Où Paul prêche et il dit aux Corinthiens, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. » Tu peux passer. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par grâce. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. En fait, il amène sur la terre, il amène dans nos cœurs ce que Dieu est. Les Juifs, l'Ancien Testament, ne connaissaient pas cette dimension-là. Mais nous l'avons parce que Jésus-Christ rend possible la venue du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a amené la parole dans le monde, qui est la révélation. Mais le Saint-Esprit amène la présence de Dieu. Et théologiens, tout ça, sont d'accord de dire qu'une caractéristique de l'Esprit, c'est d'amener la présence de Dieu. Et ce n'est pas cette présence de l'omniprésence, vous savez, cette présence de Dieu qui est là partout et qui fait que toutes choses tiennent ensemble, mais qui est une présence, je pense, retenue de Dieu. Non, c'est une présence entière, pleine, que Dieu déverse par le Saint-Esprit. C'est une présence d'une autre dimension, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu Saint, c'est son être. C'est ses profondeurs que le Saint-Esprit amène et veut répandre sur la terre. On a chanté tout à l'heure que la terre est remplie de sa gloire. Quelle est cette gloire? C'est le Saint-Esprit qui l'amène, parce qu'il amène la présence de Dieu et une gloire, une sainteté, son être se répand sur la terre. Parce que cette terre a été volée. Parce que cette terre, le Saint-Esprit la fuit dans un sens. Lui qui a dit, je ne veux pas rester dans l'homme. Mon esprit ne contestera pas dans l'homme, à jamais. Je le retire. Le Saint-Esprit veut venir. Avant la croix, la sainteté ne pouvait pas se répandre sur la terre. C'était impossible. Avant la croix, la sainteté de Dieu était prisonnière entre quatre murs du lieu très saint. Et elle ne pouvait être que là. Et dans ce lieu très saint, seul un homme pouvait entrer. Et encore, on lui attachait une corde au pied, au cas où il mourrait dans la présence de Dieu, parce qu'il est un homme, prompt au péché. Il y avait cette corde pour le retirer, au cas où le grand sacrificateur mourrait le jour du Yom Kippour. La sainteté de Dieu était prisonnière entre quatre murs. Mais Dieu ne veut pas en rester là, parce qu'il aime tellement la création. Il aime tellement la création. Vous savez, c'était une telle souffrance pour le Saint-Esprit. Parce que par nature, le Saint-Esprit est libre. Les images dans la Bible abondent pour cela. Il est celui, ce vent qui se meut, qui bouge, qui plane au-dessus de la création. Il attend ardemment la création, il attend la parole pour que la création surgisse et pour qu'il vienne l'habiter. Il est cet oiseau, cet aigle des prophètes, il est cette colombe qui vole libre, libre. L'esprit est un esprit de liberté. Il ne supporte pas d'être enfermé dans les quatre murs. Ce n'est pas sa nature. ils sondent tout. Les profondeurs de Dieu, mais pas que, tout. Ils parcourent toute la terre, dit Apocalypse 5, 7. Cet esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Et en préparant ce message, je ressentais ce désir intense, cette intensité, cet amour profond du Saint-Esprit pour venir trouver l'homme, pour venir trouver ceux pour qui Jésus-Christ est mort, pour venir rétablir la présence sainte de Dieu dans la création et remplir la création de la gloire de Dieu. C'est cela que le Saint-Esprit veut faire, c'est cela qui est inscrit presque dans ses gènes. Il est fait pour aller et pour venir dans la création, pour établir cette communion. Et on voit très clairement dans 2 Corinthiens 13, 13, la spécificité du rôle de l'Esprit Saint. Paul termine sa lettre de 2 Corinthiens 13, 13 en disant que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et il décrit là trois rôles fondamentaux. Le Père est celui qui aime, il est l'origine, la source. Le Fils est celui qui réalise l'œuvre de la croix pour que la grâce puisse être une possibilité. Et le Saint-Esprit réalise la communion. Et ce mot communion, c'est une puissance. Il est celui qui vient dans la création pour l'unir à Dieu. Il vient dans ton cœur pour l'unir à Dieu. Et il le fait par des liens d'amour, le lien de la perfection. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut rencontrer les hommes. Et il est saint. Il ne veut pas juste amener des connaissances sur Dieu. Il veut amener sa sainteté. Il veut te révéler les profondeurs de Dieu, son cœur. Et on ne peut pas jouer avec ça. Et dans l'évangélisation, finalement, vous savez, ce n'est pas nous qui évangélisons. Ce n'est pas nous qui sommes témoins. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui évangélise, mais il le fait à travers nous, c'est son choix. C'est le choix souverain de Dieu d'évangéliser, d'être témoin à travers nos vies. Et Jésus, notre maître, notre exemple, Jésus, quand il est sorti du baptême, il est allé au désert, et à la sortie du désert, il a dit une parole très très forte dans une synagogue, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et une année de grâce du Seigneur. Et même Jésus s'est mis en retrait, et c'est le Saint-Esprit en lui qui dit ça. C'est la mission du Saint-Esprit, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas la mienne avant tout. C'est la mission du Saint-Esprit que tu accueilles dans ta vie, dans ma vie. Tu es en mission, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas en mission. On l'est absolument, oui, nous le sommes, mais c'est celle du Saint-Esprit en toi. Si tu vas évangéliser avec tes propres forces, avec tes propres idées, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas ça que Dieu veut faire. C'est son cœur, c'est son intensité, c'est son amour qu'il veut faire à travers nous. Nos vies. Je crois qu'il faut vraiment comprendre ça. Je crois qu'il y a des choses puissantes et belles. Je crois qu'il y a une saison merveilleuse qui est là, qui est étonnante pour Clé, pour Montpellier. Mais je crois que c'est capital de saisir ça. Qu'il faut qu'on laisse le Saint-Esprit accomplir sa mission à travers nos vies. Que nous l'accueillons. On a chanté, c'était puissant tout à l'heure dans la louange, Dieu sauve. Dieu seul sauve. Et c'est vrai, c'est Dieu qui sauve, c'est pas toi. C'est pas ta capacité, c'est pas tes études de théologie si t'en as fait. C'est Dieu qui sauve à travers ta vie. Et Dieu, il veut pas juste révéler l'évangile pour que les gens viennent à l'église. On s'en fout de ça, excusez-moi. C'est pas ça le but. C'est pas d'avoir des églises, c'est pas d'avoir des gens qui se font baptiser. C'est que les gens rencontrent Dieu dans sa beauté, dans sa splendeur, dans sa sainteté, dans sa gloire. C'est que les gens soient réconciliés avec ce Dieu saint. Et que Jésus-Christ règne sur leur vie. Alors, qui sommes-nous pour évangéliser? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Eh bien, ce que tu es, c'est que tu es un temple. Si tu es chrétien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'est arrivé, c'est que le Saint-Esprit, le Saint, est venu habiter en toi. Et la parole dit à plusieurs endroits, tu es devenu un temple. C'est un miracle. On ne le mesure pas, mais c'est un miracle. Tu es devenu un temple. Je fais de toi mon temple. Un temple rempli de la sainteté de Dieu. Et Jésus lui-même, vous savez, quand Marie a été couverte de son ombre, Jésus est né issu de l'Esprit-Saint. Et c'est ce qui se passe quand on est de nouveau, quand on devient chrétien. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, il y a une vie en nous qui vient. Et c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui vient, il fait de toi un temple et il habite en toi. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Et puis, il y a une suite, c'est que Jésus, qui était conçu par le Saint-Esprit, lors de son baptême, une colombe est venue sur lui, s'est posée. Et là, le Saint-Esprit, pour nous, je pense, pour nous donner ce signe, un baptême de l'Esprit, il y a quelque chose, il y a une puissance supérieure qui vient. Et c'est juste à ce moment-là que Jésus a commencé sa mission. Et ça, c'est dans notre compréhension de nos courants d'Église charismatique, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient et qu'il déploie une onction pour la mission. Il déploie une onction pour que nous puissions aller avec cette puissance, en fait, pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos vies et puisse agir. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce qui est notre défi. C'est de recevoir encore et encore cette plénitude, ce baptême. Il y a plusieurs baptêmes. Dans les Actes, on voit les gens, ils se font baptiser plusieurs fois. Paul dit, mais cherchez toujours à être remplis de l'Esprit. Donc je voudrais déjà vous dire à tous qui êtes chrétiens dans cette salle, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en vous, il habite en vous. Mais peut-être qu'il est triste. Peut-être qu'il est contrit, peut-être qu'il est prisonnier dans votre vie parce que vous lui avez mis des limites et vous ne voulez pas qu'il aille dans certains domaines. Et je voudrais simplement vous dire, laissez le Saint-Esprit prendre votre vie et cherchez ce baptême, cette puissance. Et cela a un prix. Ce prix, quand on accueille le Saint-Esprit, c'est de renoncer au péché. C'est de traquer le péché dans nos vies. Et quand nous le trouvons, nous l'apportons à la croix. Nous ne le laissons pas, comme une mauvaise herbe, grandir en nous. C'est laisser son désir, sa volonté nous remplir. C'est accepter la discipline du Saint-Esprit. Vous savez, la discipline, ça montre la soif. Et le Saint-Esprit vient dans les personnes qui ont soif. J'ai pris un temps de jeûne avant la rentrée. Je ne savais pas trop où allait me conduire ce temps de jeûne. Et Dieu m'a dit quelque chose de simple, mais de fort. Il m'a dit, marche avec moi. Et je comprenais que c'était le Saint-Esprit qui me demandait cela. Marche avec moi. Et quand il me disait ces paroles toutes simples, je réalisais que je ne marche pas vraiment avec lui. Ah, je suis un chrétien normal, hein. En plus, je suis pasteur, donc... Je fais les choses normales, vous savez. Mais je réalisais, dans ce temps de jeûne, dans ce face-à-face avec Dieu, que je ne marche pas vraiment avec le Saint-Esprit. Et lui me disait avec douceur, « Marche avec moi. » Et je crois que c'est ça qu'il nous faut chercher pour cette saison. C'est de marcher dans cette communion. C'est de recevoir tout ce que l'Esprit veut nous donner. Et d'aller dans l'obéissance, d'aller par cette force d'aller dans le monde, d'aller dans nos missions, d'aller là où il nous conduit avec cette puissance en nous. Je voudrais terminer avec un petit partage d'un souvenir qui a été fort pour moi pendant mes vacances. J'étais à la montagne dans les écrins. Si Nico, tu peux passer une photo. J'étais dans les écrins et il y a des magnifiques montagnes. J'aime les montagnes, ça me ressource profondément. Et à la fin de ce séjour, je crois qu'on a passé 4-5 jours de randonnée immergée dans ces paysages. Alors, les photos, ça rend toujours moins bien. Mais ça, c'est la deuxième photo, c'est ça? En fait, à un moment, à la fin de ce séjour dans la montagne, je suis tombé devant un torrent. Et là, je regardais, je contemplais en fait ce torrent. Et là, Dieu me parle. Il me dit, il y a des montagnes. Il y a plein de montagnes. Et dans ma méditation, je comprenais que les montagnes, c'est des chrétiens. C'est une vie chrétienne. Et puis, il y a des montagnes qui peuvent être très grandes, très imposantes, mais sans eau. Il n'y a pas d'eau. Et vous savez, quand on fait de la randonnée, l'eau, c'est vital. On choisit son chemin en fonction de l'eau, quand on est longtemps en montagne. Sans eau, il n'y a pas de vie en montagne. Et je comprenais qu'on peut être une montagne, très haut, très élevée, plein de connaissances, va à l'église depuis 20 ans, 30 ans, mais t'es sans eau. Ou un petit filet d'eau. Et puis on peut être cette montagne ruisselante d'eau. Cette eau ne vient pas de la montagne, elle n'appartient pas à la montagne. Elle vient de plus profond. Et je comprenais comme si Dieu me disait « Je veux que tu sois ça. Je veux que tu sois cette montagne, certes, mais ruisselante d'eau. Ruisselante d'eau, abondante. Cette eau qui coule dans la vallée, qui amène la vie partout. » Et j'étais très encouragé ce matin parce que je vous avoue, j'ai préparé difficilement cette prédication à l'arrache, comme on dirait. J'avais pas mal de choses cette semaine, mais j'ai lu ce matin pile le psaume 114, où Dieu dit « J'ai sorti mon peuple d'Égypte et j'ai fait de Juda mon sanctuaire, le lieu qui accueille la sainteté. » Et à la fin du psaume 114, il dit « Il fait jaillir du rocher de l'eau. » Et je crois que c'est ça l'appel que Dieu veut nous faire ce matin. Tu es une montagne. Peut-être tu te vois petit, mais tu es une montagne. Dieu te fait une montagne et il t'élève. Mais tu as besoin de l'eau. Cette eau, c'est le Saint-Esprit en toi, qui est beaucoup plus que juste ta vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui amène la vie, qui est la puissance. Cet esprit qui veut aller et t'emmener avec lui dans plein de bonnes choses. Consacrons-nous au Saint-Esprit, demandons-lui d'agir. Il faut juste le chercher. Il viendra, mais c'est juste l'ouvrir cette porte.